les allumeurs de réverbères.
La rubrique hymne international.
Le Bangladesh est un État qui est devenu officiellement indépendant en 1971. Ses frontières du nord, de l'ouest et de l'est sont aussi celles de l'Inde. À l'est se trouve la Birmanie et au sud, le pays s'étend sur le golfe du Bengale, au nord de l'océan Indien. La plus grande partie de sa côte maritime est une jungle marécageuse. On y trouve la plus grande forêt de mangroves du monde. Une mangrove est un écosystème de marais maritimes peuplé d'une faune et d'une flore très spécifiques. C'est aussi au Bangladesh que se trouve la plage la plus longue du monde, 120 km. Pourtant, cette spécificité du Bangladesh d'être situé dans une partie du monde mêlant zone aquatique et terre est source d'inquiétude, car il est estimé qu'environ 50% de la superficie du pays serait inondée si le niveau de la mer augmentait d'un mètre. Le Bangladesh est aussi l'un des pays qui connaît la plus forte densité de population, c'est-à-dire l'un des pays où réside le plus grand nombre d'habitants au kilomètre carré, 1102 habitants au kilomètre carré, 10 fois plus qu'en France. En 2021, le Bangladesh est le troisième exportateur mondial de vêtements derrière la Chine et l'Allemagne. Une partie importante de son économie repose sur cette industrie textile. De nombreuses multinationales occidentales font appel à de la main-d'œuvre du Bangladesh, celle-ci étant l'une des moins chères au monde, 30 euros par mois contre 150 à 200 euros en Chine. En 2018, la Confédération internationale des syndicats pointait le Bangladesh comme l'un des pays où se trouvaient les plus mauvaises conditions de travail. Pression d'État, réponse violente aux manifestations pacifiques, difficulté à développer des syndicats, police industrielle. Mais quelle est l'histoire du Bangladesh? Comment ce territoire est-il devenu l'une des plus grandes manufactures textiles du monde et son peuple l'un des plus pauvres et des plus maltraités du monde? Plutôt, le Bangladesh faisait partie de l'Empire moghol, qui comprenait une partie de l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. C'est à la fin du XVe siècle que les contacts avec différents occidentaux se font. Les Portugais arrivent les premiers, puis les explorateurs français, des corsaires et des aventuriers qui arment leurs navires pour atteindre Cathay, le nord de la Chine, et les Indes pour en rapporter des épices sans intermédiaire. À partir de 1600, les expéditions commerciales françaises se rendent régulièrement vers l'Asie au départ des ports de Saint-Malo et de Dieppe. Mais pas sans être empêchés par les Néerlandais qui veulent aussi leur part, puis par les Anglais, des combats entre commerciaux ont souvent lieu en mer. Et parfois, entre des compagnies privées et des compagnies d'État. Par exemple, pour la France, c'est une compagnie d'État, nommée la Compagnie française des Indes orientales, qui prend le monopole du commerce dans cette partie du monde à partir de 1664. Conçue par Colbert, signée par Louis XIV, la compagnie a trois missions. Le commerce, notamment pour concurrencer les produits anglais et néerlandais, la politique, en affirmant la présence de la marine française sur les mers, et une mission culturelle et religieuse, l'évangélisation des non-chrétiens. Malgré le respect pour les savoir-faire et les savoir-être des Bengalais qui habillaient et inspiraient déjà les habitants les plus fortunés de France grâce à ces indiennes.
Les indiennes.
Les indiennes, ce sont des vêtements, des tissus fins et colorés, très prisés par les Françaises. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de sari. Chaque année, ce sont 8 à 10 vaisseaux chargés de ces tissus qui arrivaient à l'Orient en provenance de Pondichéry et de Calcutta. Et à cette époque, c'était beaucoup. Fait étrange, un jour, ce goût des plus hauts monarques, Louis XIV, qui promulgua une loi en 1689 pour les interdire. Loi qui restera en place de 1689 à 1759. Le port de ces vêtements peut être puni de la peine des galères et leurs ventes peuvent conduire à la pendaison. La vente des tissus colorés n'est autorisée qu'à l'extérieur des frontières françaises. Les Français n'ont droit de porter en provenance des Indes que des cotons blancs. Malgré cela, une contrebande active, en partie alimentée par les marins de la Compagnie des Indes, approvisionna le marché clandestin et continua à vendre des tissus aux Françaises de tous rangs sociaux. Mais revenons au Bengale. Au Bengale, c'est une autre histoire. Pendant que les Français, les Anglais et les Néerlandais font leur commerce et leur guerre, ce territoire de l'Empire moghol fait ce qu'il peut sous les assauts des commerciaux. En 1756, arrive un nouveau nabab. Il succède à son grand-père, il a 23 ans. Un nabab, c'est le titre donné au plus haut responsable politique du territoire. 1756, c'est aussi le moment où les Britanniques sont en conflit avec les Français sur le sol du Bengale. Et ce nabab, le dernier nabab, n'a pas l'intention de les laisser faire n'importe quoi, particulièrement concernant la ville de Calcutta. Bien que le Grand Mongol ait cédé ce territoire 80 ans auparavant à la Royal Navy, les Anglais ont des accords à respecter, comme ne pas fortifier Calcutta pour repousser les Français sans autorisation. Alors cette année-là, le Nabab lance un ultimatum. Vu qu'il reste sans effet, lui et ses troupes se lancent à l'assaut de la ville et remportent la victoire. C'était le 20 juin 1756. Malheureusement, un an et trois jours plus tard, l'armée impériale britannique débarque au Bengale et l'armée du Bengale est défaite, malgré l'appui apporté par l'artillerie française. C'est alors Mir Jafar, l'oncle de l'ancien Nabab qui a trahi son neveu sur le champ de bataille, qui est placé comme nouvel administrateur par les Anglais. Et de terribles famines commencent, comme dans tout le sous-continent indien pendant la période coloniale. À partir de cette date, l'armée anglaise avance et annexe sur son passage tous les territoires qui s'étendent vers le nord et vers l'ouest. En 1820, l'Empire britannique tient sous son joug l'ensemble de la région et y développe des écoles et des administrations pour faire taire le mécontentement des populations locales utilisées comme main-d'œuvre pour alimenter l'Europe en ballots de coton. Nous arrivons maintenant à l'histoire la plus contemporaine du Bangladesh, qui ne s'appelle pas encore le Bangladesh. En 1947, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se répartissent le monde encore une fois. Et le Bengale devient une région du Pakistan, l'Inde d'un côté avec la religion hindoue et le Pakistan de l'autre, de confession musulmane. Le nouvel administrateur a fait ses études à Londres et est favorable à l'existence d'un État pour les musulmans. Il faudra encore attendre 23 ans, jusqu'en 1970, après de nombreuses pressions et révoltes populaires, pour que s'organisent les premières élections législatives au Pakistan. Résultat, que ce soit à l'ouest ou à l'est, au Bengale, les mouvements d'opposition l'emportent contre le pouvoir militaire en place. Sans étonnement, le pouvoir militaire refuse les résultats. Une bataille s'entame alors, notamment judiciaire. La guérilla et les troupes du Bengale sont soutenues par l'armée indienne et ensemble, ils remportent l'indépendance. Le Bengale devient officiellement le Bangladesh en 1971. Aujourd'hui, le Bangladesh est une démocratie parlementaire ayant l'islam comme religion d'État. Les élections sont ouvertes à tout citoyen au-dessus de 18 ans et se tiennent tous les 5 ans pour renouveler le parlement monocaméral de 300 sièges, dont 50 sont réservés aux femmes. L'hymne national, que nous allons maintenant entendre, a été adopté lors de l'indépendance, en 1971. La musique et les paroles ont été composées par Rabindranath Tagore, également auteur de l'hymne indien. Son titre, Amar Shonar Bangla, mon Bengale doré. Bonne écoute. Amar Shonar Bangla, ami tumai bhalobashi. Chirodin tomar akash, chirodin tomar akash, tomar batash. Amar prane, Omar amar prane, bajay bashi, shonar bangla, ami tumar.
Machine.